Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Dans une heure, les transports vont commencer à passer en mode grève. Le début d'un mouvement qui s'annonce massif avec une mobilisation déjà jugée inédite dans certains secteurs. 10% seulement des TGV en circulation à Paris. 3 écoles seulement sur 652 accueilleront des élèves. 245 rassemblements qui sont prévus dans toute la France. Face à cela, le gouvernement se prépare de son côté à l'impact. La moitié des effectifs de police du pays sont mobilisés pour faire face aux éventuelles violences. Le ministre des Transports imagine de son côté mettre à contribution des cars privés dans la capitale, car la question est désormais posée. Où est passé le service minimum? Quel rôle vont jouer les oppositions politiques alors que le Rassemblement national et la France insoumise vont se retrouver côte à côte dans les mêmes cortèges? Que pensent finalement les Français de ce mouvement? Grève, blocage maximum et pas de service minimum, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, en une de votre journal aujourd'hui, Transport, Entreprise, comment la France s'organise. Nathalie Saint-Cricq, vous êtes éditorialiste à France Télévisions. Emmanuel Soufi, vous êtes journaliste spécialiste des questions sociales au Journal du Dimanche. Je rappelle que le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, annonçait, c'était ce week-end à la une de votre journal, la réforme des retraites se fera. C'est toujours ce qu'on dit hein, avant que le mouvement social commence. Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous enseignez par ailleurs à la FACO, la Faculté libre d'économie et de droit de Paris. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Il y a une phrase d'Emmanuel Macron qui a appelé à avoir l'esprit d'équipage hein, en attendant cette période de gros temps. On a vu toute la journée l'ensemble des ministres concernés en première ligne, mobilisés au devant des médias en essayant de préparer ce que je disais à l'impact. Ils savent que ce sera dur et que ça commence là, dans une heure.
Ça commence dans une heure et ça va être dur. Et le sujet, il n'est pas tellement aujourd'hui, demain, ni ce week-end. C'est de savoir si lundi, eh bien, la France sera en mesure de reprendre vie et de reprendre son activité, si les gens vont pouvoir circuler. Parce qu'il est sûr que bah, la journée de demain, elle est plombée, je dirais. On a
ça,
les taux de syndicalisation, c'est acquis. On va probablement avoir une reconduction qui va tomber dans les heures à venir, dans les transports au moins, puisque c'est 48 heures avant qu'il faut le signaler pour les grévistes. Et donc, ça sera sans doute reconduit le vendredi. Et puis, bah, ce week-end, je dirais que ça sera dans le droit fil. Après, savoir est-ce que lundi, eh bien, le mouvement, le conflit sera terminé. Probablement pas. Il ne sera pas terminé. Il y aura toujours le rapport de force, le bras de fer entre le gouvernement et ceux qui sont opposés à cette réforme. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et puis, savoir si on peut reprendre une activité à peu près normale. Évidemment, tout le monde est hanté par le souvenir de 1995. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que la date du 5 décembre a été choisie, puisque le point de cristallisation de cette grève en 1995, ça avait été un 5 décembre. Reconduction le 12, avec aussi un autre sommet, je dirais, de grève qui avait été très important, qui avait paralysé la France et qui avait débouché, finalement, sur le retrait d'une partie de la réforme de Alain Juppé qui concernait finalement effectivement les régimes spéciaux et les fonctionnaires. Donc là, c'est le bras de fer qui est engagé. Il y a une bataille de l'opinion qui est engagée, évidente, parce que le gouvernement fait le pari, enfin fait pas le pari, mise sur le fait que l'opinion, lassée, fatiguée par des jours et des heures de grève, eh bien, se retourne finalement contre les
grévistes. Alors faisons un point d'étape sur l'opinion. À une heure maintenant du début de ce mouvement, 58% des Français approuvent le mouvement. Ça fait 6 Français sur 10. Alors on se dit, c'est un chiffre qui est en progression hein, ces derniers jours, c'est-à-dire que le soutien progresse plutôt. C'est moins que le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on peut se dire pour le début de ce mouvement de grève?
On peut déjà se dire que c'était une agrégation d'un certain nombre de fureurs, c'est-à-dire les gens soutiennent, on ne sait pas s'ils soutiennent spécifiquement la grève ou le fait qu'on réforme les régimes spéciaux. Il y a une espèce de fureur, pas encore coalisée, mais qui touche, on a vu, les pompiers, les policiers, les étudiants, les infirmières, tout le monde. Il y a déjà ce premier point. À côté de ça, il y a un paradoxe, parce que vous partiez tout à l'heure de 95, qui est que les gens sont hostiles au maintien des régimes spéciaux. Donc on peut espérer qu'il y ait une espèce de faille, et c'est ce que joue le gouvernement, entre, certes, ce soutien, qui est une façon d'envoyer un message à Emmanuel Macron et à l'exécutif, c'est-à-dire qu'on n'est pas content, et deuxièmement, le fait que la réforme puisse se poursuivre. Ça, c'est le problème. Et puis pour aller derrière ce que disait Yves Tréhard, reprendre 95, et j'en discutais avec un juppéiste de l'époque, c'est-à-dire il y en a encore des gens qui étaient là en 95, c'est que leur grande panique, c'est qu'à l'époque, vous aviez une CFDT, un FO et une CGT qui maintenaient les choses, c'est-à-dire qui travaillaient ou pas, qui négociaient ou pas avec le gouvernement, mais qui, quand ils disaient maintenant on arrête tout ou alors on fait ça, ça marchait. Alors que là, manifestement, c'est beaucoup plus diffus, et j'en arrive à la réponse à votre question par rapport aux Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on peut redouter un mouvement social qui soit une espèce de pendant social des Gilets jaunes, c'est-à-dire quelque chose, on ne sait pas avec qui
sans
parler.
Sans interlocuteurs
Avec des interlocuteurs ou des interlocuteurs qui ne sachent pas exactement ce qu'on doit enlever, ce qu'on doit retirer. Juppé, il y avait les régimes spéciaux, la sécurité sociale, on a retiré les régimes spéciaux. Là, on ne sait pas ce qu'il y a dans la réforme, ça a été super mal vendu depuis le début, donc ça va être extrêmement difficile d'en sortir, à mon avis.
Il joue sur quel thème, le gouvernement ? C'est-à-dire, d'un côté, on a l'impression que c'est de dire, et on va en parler dans un instant avec vous, c'est dire, la réforme se fera, détermination, esprit d'équipage, dit le président de la République, qui semble se préparer en capitaine à affronter un gros temps et qui veut tenir. Et de l'autre côté, on voit beaucoup d'énergie dépensée pour dire aux Français, vous inquiétez pas, on va faire tout ce qu'on peut pour que l'impact soit le moins douloureux possible, c'est ça ?
Oui, c'est logique. Ils ne peuvent pas dire dès le début, on va tout lâcher. Donc, Emmanuel Macron est obligé de continuer, et il sait pertinemment, ça a été dit 2 milliards de fois sur ce plateau, que s'il cale tout de suite, c'en est cuit pour la fin du
quinquennat.
Moins
bien que ce que vous venez de faire.
Non, peut-être avec plus d'élégance que de dire c'est cuit pour la fin du quinquennat. C'est-à-dire qu'en gros, la frange des Français, les 20, 25, 30% qui l'aiment pour sa capacité à réformer, se disent, bon, il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout, et qui perdent cette dernière assise. Donc c'est ça l'inquiétude. À côté de cela, ils veulent rassurer. Donc on a vu un Édouard Philippe assez conciliant il y a une semaine en disant, attendez, on va négocier les périodes de transition, on va voir tout ce qu'on peut faire. Et puis évidemment, pour aider les Français, le plan de Gébari, c'est-à-dire essayer de mettre des bateaux bus, je ne sais pas quoi, se débrouiller. Enfin, c'est un petit peu, comment dire, une espèce de légère goutte d'eau dans un océan de cirque qui risque de se produire dans les 4 jours ou plus.
Ou plus. En tout cas, demain, le message sera ultra clair. Parce que quand on fait la liste de la mobilisation, je donnais ce chiffre qui est absolument incroyable dans les écoles à Paris, 3 écoles qui seront ouvertes seulement sur 652 qui accueilleront des élèves. On peut prendre toutes les catégories socioprofessionnelles qui sont dans ce mouvement-là. Les taux de mobilisation sont colossaux. Ça, pour le coup, ce sera un message très clair.
Tout à fait, mais en même temps, c'est aussi une comment dirais-je, pour les syndicats, c'est le moment, c'est là qu'il faut jouer un carton plein, en tous les cas. C'est-à-dire mobiliser toutes ces troupes, ces bastions traditionnels, l'énergie, les transports, EDF, GDF, etc. Et puis, il y a les routiers aussi, on les oublie, mais ils peuvent être un peu
ils sont mobilisés d'ores et déjà.
Mais clairement, puis les petits patrons, on a vu ça sur différentes mesures du plan de financement, du plan de la loi de finances. Donc oui, il y a une agrégation. Et pour les syndicats, c'est aussi le jour J, c'est-à-dire l'heure qui a enfin sonné pour eux après s'être senti un peu inutile, voire méprisé par un gouvernement qui certes dialogue, mais avec des empêcheurs de réformer en rond et tranquillement finalement. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est il faut absolument mobiliser à fond et en même temps ils ont comment dirais-je la différence de 95, c'est que la réforme par point, la réforme Macron, sa promesse de campagne, elle touche tout le monde. En 95, il y avait le volet sécurité sociale, mais il ne s'attaquait Juppé qu'aux régimes spéciaux. Aujourd'hui, cette réforme par point, comme vous l'avez souligné Nathalie, elle est assez floue. Alors, on a des grands principes de justice, d'équité. Tout le monde va être au même régime, un point, en fonction de ce qu'on a cotisé, etc. Mais il y a tellement de choses trappes que forcément, ça crée une espèce de climat complètement anxiogène et que le gouvernement est bien en peine de déminer parce qu'il est obligé d'aller dans la technique. Et la technique, on sait très bien qu'à chaque fois, ça n'imprime pas forcément dans l'esprit des Français.
Il y a une stratégie derrière cela, de laisser au fond l'ensemble de ces acteurs qu'on va avoir mobilisés demain se mobiliser contre une réforme qu'on ne connaît pas. Ça donne un atout ou c'est un handicap dans les heures qui vont commencer, là, à votre avis
Moi, à mon avis, c'est une stratégie qui n'est pas totalement absurde. Ils disent qu'ils ne la connaissent pas. Je pense que le texte, quand même, il est quand même quelque part bien caché dans un tiroir. Mais de facto, on ne peut pas croire que Jean-Paul Delevoye, donc le haut commissaire chargé du dossier, qui a discuté pendant 18 mois avec toutes les organisations syndicales, il n'ait pas une idée de l'endroit où il veut aller. Et c'est peut-être ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est d'avancer masqué sur des paramètres qui vont être extrêmement important et d'avoir mélangé les dossiers. Quand on a parlé de mesures d'âge, on va travailler plus longtemps. Donc cette petite musique, elle est passée dans la tête des Français. Mais on vous dit, peut-être qu'avant 2025, on va avoir les fameuses mesures paramétriques. Et en même temps, on fera aussi la réforme. Vous voyez, on dynamite un petit peu les choses. Donc il ne veut pas mettre carte sur table pour pouvoir effectivement lancer des choses.
Pour se garder des cartes dans la négociation.
Mais il va se garder des cartes que sur les régimes spéciaux, pas sur le reste et pas sur le privé notamment.
Bernard Vivier, sur la mobilisation, je le disais, le message demain, il sera clair. Il y aura une mobilisation massive et une France à l'arrêt.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Oui, massivement, ça vient d'être dit, oui. et un enjeu pour les uns et les autres. Les uns, c'est les membres du gouvernement, les autres, c'est les organisations syndicales.
Alors allons-y avec les
uns. Membres du gouvernement, ça c'est important. On ne peut pas vraiment savoir si le gouvernement retarde l'annonce, l'affichage de sa réforme par calcul tactique ou parce qu'il patauge.
Et, ce que et l'on cette peut... option n'est pas exclue.
Et non, cette option n'est pas exclue. Et je pense que depuis le mois de septembre, le gouvernement patine. Ça fait plus pouet-pouet qu'une grande et belle symphonie.
Voilà. C'est dit, ça.
Nous pouvons le dire de façon un peu familière, mais il y a une hésitation, très claire. Et ces hésitations font perdre de la vigueur, de l'efficacité. Ça fait 3 mois que l'on attend que le président de la République, plus que le Premier ministre, dise « voilà pourquoi nous voulons cette réforme ». Pour sauvegarder les retraites par répartition, voici le prix à payer pour tout le monde. Voilà, c'est pas très compliqué. Et puis, dire ensuite, après avoir affirmé, après avoir dit « je suis le chef », rassurer. Ça, c'est côté gouvernement. Côté organisation syndicale, il y a 2 enjeux pour les syndicats. Il y a tenir, exister par rapport à Emmanuel Macron qui, depuis 2 ans et demi, les snob. Bien. Il y a un peu côté SNCF-CGT le match retour d'avoir perdu la bagarre de 2018 et la loi. Et puis il y a aussi le front des salariés. Aujourd'hui, Nathalie Saint-Grigue l'a dit tout à l'heure, les confédérations en 1995 tenaient très bien leurs troupes. Les confédérations tenaient les fédérations, c'est plus le cas aujourd'hui, que ce soit la CGT, même à la CFDT. Les fédérations tiennent moins les équipes en entreprise et les délégués syndicaux en entreprise courent de plus en plus après la base, qui souvent leur dit, écoutez, nous, c'est pas vous qu'on va aller voir, on va aller voir les gilets jaunes et les jeunes générations désertent
les lieux syndicaux. Mais alors, où on se part, Bernard Vivier, vous connaissez ces sujets-là par cœur, on n'a pas la réponse à la question que vous posez, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si les centrales vont tenir la base et vont pouvoir organiser d'une certaine manière ce moment de contestation. Alors, on ne le sait pas.
Si, d'une certaine façon, parce que quand un mouvement comme celui-ci, qui est un mouvement structuré par les appareils syndicaux, occupe et les médias et le terrain, les gilets jaunes se sont essoufflés. Ce n'est pas les black blocs qui vont gêner aujourd'hui les manifestations, mais il faut être attentif au risque de récupération, soit sur le terrain, les black blocs, soit en politique, évidemment, les deux extrêmes.
On va en parler.
Le péniste, mélenchoniste.
Et qu'on retrouvera dans les mêmes cortèges. Rif Tréard.
Moi, je voudrais ajouter sur le patinage du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a les grands principes en tête. Et les grands principes sont là, on les connaît, c'est notamment de mettre tout le monde dans un même régime, hein, régime dit universel. Sauf que là où ils sont ennuyés, parce que c'était un propos de campagne en fait, pour se démarquer d'ailleurs de François Fillon, qui lui voulait jouer sur l'âge de la retraite. Et le problème c'est que le diable se cache dans les détails, et que de mettre tous les régimes dans un seul régime universel, eh bien, ils sont obligés de s'adresser à chaque catégorie de population. Et ils n'ont pas la réponse pour tous. Ils n'ont
ni
la réponse, et ni les moyens. Ils n'ont la réponse que pour les régimes spéciaux. Et c'est pour ça, comme ils savent que les régimes spéciaux sont quand même assez impopulaires, qu'ils martèlent là-dessus depuis 15 jours.
Ça prend ou pas ?
Ben, ça ne prend pas tellement. On le voit, ça ne prend absolument pas.
Considérer que c'est une réforme, que c'est une mobilisation des défenseurs, des privilégiés qui défendraient le régime spécial, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Et justement, comme ils ont vu que cette réforme avait été difficile à accoucher, compliquée sur un plan mécanique, ils se sont dit, on va recentrer. C'est le président de la République lui-même qui l'a recentré, ce discours. Mais on voit que, pour le moment, ça ne prend pas, en tous les cas.
Juste pour revenir sur l'idée que ça patauge, est-ce que ce n'est pas injuste de leur faire le reproche de prendre le temps de la discussion, de la négociation? Parce que c'est un des arguments qui est porté par le gouvernement, de dire, bah, écoutez, c'est une réforme tellement énorme qu'on veut prendre le temps de discuter avec les uns les autres.
Jean-Paul Delevoye a été nommé haut commissaire aux réformes en septembre 2017.
Ah oui.
Il y a plus de 2 ans. Donc la réponse est là. Le temps de la concertation, maintenant, c'est bien. Tout le monde est au courant. Les organisations syndicales ont des experts, savent tout cela. Nous avons effectivement beaucoup de paramètres à mettre en ordre. C'est une réforme universelle.
Alors,
donc on ne peut pas cibler les régimes spéciaux. Ça
Alors
prend
de quoi il se parle, Bernard Vivier, en ce moment? Parce qu'il continue de se voir.
Oui, et il continue de se voir parce que chacun essaye, malgré tout, de se dire... attention, soit les uns, CFDT, CFTC, UNSA, disent « il faut faire aboutir la réforme, donc ne la faites pas tout seul dans votre coin, monsieur le président de la République », et d'autres disent « bon, on est contre la réforme, mais il vaut mieux être encore là autour de la table pour en discuter que de voir le gouvernement prendre des décisions sans nous et être, nous, débordés par la base ».
Et tout le monde attend de voir comment les choses vont se passer dans les prochains jours, en réalité.
Vrai, pas ça patauge, c'est pas parce qu'on est cruel en disant qu'il faudra donner du temps au temps et que, voilà, bien sûr, ça c'est parfait. Mais on peut pas avoir Emmanuel Macron qui parle parle de la fameuse clause du grand-père. C'est-à-dire, en gros, ça va prendre 20 ans, et puis vous inquiétez pas, tous ceux qui sont rentrés là. Et puis après, on nous dit, hors de question de la clause du grand-père, enfin, je veux dire, on nous dit des choses, on nous dit, c'est des privilégiés pendant 3 jours, la fameuse communication du gouvernement, Agnès Buzyn, Darmanin, tout le monde dit les privilégiés, et après, on dit, on ne veut offusquer personne, on ne va pas stigmatiser le fameux mot, les fonctionnaires contre les autres. Voilà, soit on stigmatise, soit on stigmatise pas. Donc, en gros, sur le fond et sur la com, on a eu globalement une chose extrêmement compliquée et personne, et comment plus j'ajoute, parce que sur le fond, tout le monde se dit que quand on réforme les retraites, c'est pas forcément par bonté d'âme, mais c'est parce qu'il y a un problème d'argent et qu'en plus on nous rajoute aussi une donnée paramétrique, c'est-à-dire une mesure d'âge, on se dit qu'en gros, on comprend pas. Voilà.
C'est le grand flou. Ça fait des semaines en tout cas que le gouvernement s'y prépare et une chose est sûre, le mouvement de contestation contre la réforme des retraites, on l'a compris, sera massif, suivi. La France va se retrouver demain totalement bloquée. Pour l'instant, 6 Français sur 10 approuvent la mobilisation, un chiffre qui est en hausse. Les ministres, eux, tentent d'amortir l'impact quand les oppositions politiques parient sur le réveil de l'ensemble des colères. Juliette Perrault, Arnaud Fora.
Jeudi 5 décembre sera d'abord une journée noire dans les transports. Moins de 10% des TGV en circulation dans toute la France, seulement 3% des TER et un trafic quasi nul pour les intercités. Journée compliquée également dans les airs. La compagnie britannique EasyJet annonce la suppression de plus de 200 vols en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Sur l'ensemble du territoire français, 20% des vols ne seront pas assurés. Un mouvement social massif et des millions de grévistes, avocats, policiers, personnels des hôpitaux ou encore professeurs. Une journée à haut risque pour le gouvernement, mais pour Emmanuel Macron, pas question de flancher. En déplacement aux Assises de la mer hier, le président de la République a filé la métaphore maritime.
J'aime ce caractère des marins, qui n'ont pas peur du risque, qui parfois ne sont pas tous d'accord au sein d'un équipage, mais savent que quand il faut prendre la mer, les désaccords doivent rester derrière, car il y a un équipage, et un seul.
Pour la seule journée de demain, 245 rassemblements ont été déclarés dans toute la France. À Paris, où plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues, la préfecture a pris un arrêté demandant la fermeture des commerces tout au long du parcours de la manifestation.
Ça me paraît être une précaution essentielle, que d'ailleurs j'avais prise le 1er mai, et vous vous souvenez tous des difficultés rencontrées le 1er mai par un certain nombre de ces commerces. J'ai également transmis à la mairie de Paris ce qui s'appelle dans notre jargon administratif une réquisition, c'est-à-dire la nécessité d'évacuer tout ce qui est malheureusement utilisé bien des fois par certains manifestants pour en découdre avec les forces de l'ordre.
Des forces de l'ordre qui seront près de 6000 mobilisées pour gérer les éventuels débordements dus à la présence redoutée de Black Blocs ou de gilets jaunes radicaux.
Il y aura une mobilisation importante, syndicale, et il y aura aussi des risques. Nous devons faire face à ces risques et j'ai demandé que systématiquement, dès qu'il y aura des désordres, des émeutes urbaines, des violences, nous puissions interpeller tout de suite. Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est quand vous avez 200 personnes qui viennent pour casser au milieu de 5000 et qu'elles se mélangent à la foule, c'est très difficile de gérer cela.
Du côté de l'opposition, l'appel à la grève est largement soutenu. Au sein du Rassemblement national, contrairement à leurs habitudes, plusieurs cadres ont même prévu de rejoindre les cortèges. Marine Le Pen, elle, ne participera pas à la manifestation, mais encourage les Français à se mobiliser.
Bon, j'appelle les Français à exprimer leur désaccord avec cette réforme des retraites, qui va toucher absolument tout le monde. Il faut qu'à un moment donné, le gouvernement entende, voit de ses yeux que les Français y sont opposés. Et je ne connais pas d'autre moyen que celui-là.
Même message de la part du chef de file de la France Insoumise, qui en appelle à l'unité.
Je m'adresse à tout le monde, à tous les Français. Il faut qu'ils s'impliquent dans ce grand sujet, parce que M. Macron, page après page, est en train de, de détruire tout le livre de l'histoire de la République sociale française. Alors donc, il faut que les gens s'en mêlent. Il s'agit de la cohésion de la société. Bon sang, est-ce qu'on est un pays? Est-ce qu'on est une nation? Est-ce qu'on est un peuple ensemble? Ou bien chacun fait ses petites affaires et la société est comme une espèce de magasin dans lequel on va se servir, chacun sa petite retraite, sans s'occuper de l'autre et sans savoir ce qui arrive aux autres.
Ce soir, petit soulagement pour le gouvernement. Dans le Grand Ouest, les professionnels du BTP ont mis fin au blocage des dépôts pétroliers qui avaient provoqué des pénuries d'essence dans plusieurs centaines de stations-service.
Nous allons revenir sur ce qu'on vient d'entendre dans la voix de Marine Le Pen, mais cette question, pourquoi l'ambiance est-elle si tendue dans notre pays?
Elle est tendue depuis très longtemps. Je dirais que le point paroxystique, il a été atteint l'hiver dernier avec les Gilets jaunes, et depuis, il ne s'est jamais, on a dit que le feu n'était pas éteint, qu'il y avait encore les braises qui étaient très chaudes, et la réforme des retraites vient rallumer d'une certaine façon le feu. On verra jusqu'où ça va. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'à côté de cette réforme des retraites, vous avez une addition de mécontentement, plus qu'une convergence d'ailleurs, une addition, parce que c'est tellement des revendications qui sont différentes. Vous avez des pompiers, vous avez des policiers qui veulent être payés,
qui sont mobilisés.
Mais par exemple, les policiers veulent être payés de leurs heures supplémentaires. Vous vous rendez compte qu'il y a des millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Les pompiers, ils en ont marre de se faire, ils en ont assez, de se faire caillasser quand ils vont sur un incendie ou pour prêter main forte à une personne en danger. Vous avez les enseignants. Eux, ils ont une double peine, c'est-à-dire que ils sont mal, d'une certaine façon, ils sont évidemment mal rémunérés pour le travail qu'ils font, mais en plus, ils risquent d'être les perdants, un des grands perdants de cette réforme des retraites. Vous avez les avocats. Alors les avocats, eux, ils disent pas qu'ils ont peur pour leur retraite. Ils disent, mais nous, on a bien géré notre régime, on a 3 milliards d'excédents et on va nous les prendre pour aller combler. Alors vous voyez, vous avez une France avec des catégories socio-professionnelles très différentes, avec des parcours de vie très différents, avec une géographie aussi, parce que la géographie compte beaucoup, qui est très différente, qui est, je dirais, un peu en ébullition. Et d'une certaine façon, le top départ de cette ébullition dans notre pays, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron a été élu, c'était la signification pour beaucoup de Français de dire aux autres, à tous ceux qui gouvernaient la France depuis 30 ans, vous partez. On ne veut plus de vous. Alors, on va prendre celui-ci, on ne sait pas trop qui c'est, mais il est jeune, il parle bien, et on va le prendre. Sauf que le jeune qui parle bien, il veut aussi faire avancer le pays, le faire changer. Et on n'est pas sorti. Et les Gilets jaunes sont...
C'est la suite, en fait, vous expliquez que c'est la suite du mouvement des Gilets jaunes qui est en train de se passer. Je voudrais juste vous donner ce chiffre aux uns et aux autres et avoir votre réaction. 43% des Français pensent que c'est d'abord une mobilisation globale d'opposition à la politique menée par Emmanuel Macron. C'est 43% des Français qui disent que ce n'est pas juste les retraites, c'est tout ce que dit Yves Tréhard.
C'est-à-dire que c'est probablement quelque chose qui est aussi fixé sur la nature d'Emmanuel Macron, sur sa façon de fonctionner, à une espèce d'énervement. Il y a probablement, ce que disent certains chercheurs, une résurgence de lutte des classes, c'est-à-dire en gros qui ne se situe pas comme c'était dans le temps, mais entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, les inclus, les exclus, ceux qui sont capables de se débrouiller avec Internet, ceux qui rament pour prendre un billet de train. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux France, une France qui s'accroche, qui essaie de s'en sortir, et une autre. Et avec les éternels marqueurs de début de quinquennat, les autres ont eu la loi TEPA ou je ne sais quoi. Là, avec l'impôt sur la fortune, c'est quelque chose. Et quand ils parlent des appels en disant c'est un boulet que je traîne, ce sont des choses symboliques. L'impression que lui, tout va bien. Il travaille pour une France qui veut aller de l'avant, qui est joyeuse, qui est bien dans son siècle et qu'il y en a d'autres. Alors ça peut être dans les territoires, ça peut être dans les métiers difficiles et que ceux-là sont mis sur le bord du chemin. Et c'est peut-être une des explications à cette espèce de grogne française qui, quand on regarde des facteurs objectifs, n'est quand même pas le pays le plus malheureux. Quand on voit ce qui peut se passer en Angleterre, quand on voit ce qui peut se passer dans d'autres pays, les facteurs objectifs ne sont pas si importants que ça. Mais le ressenti, comme on dit, c'est comme avec la météo, c'est ça compte autant que ce qui est réel.
Qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans cette mobilisation? C'est qu'elle touche des catégories socio-professionnelles aussi différentes que celles que vient d'exposer Yves Tréhard, c'est-à-dire qu'ils vont des policiers, des pompiers aux enseignants, ils se sont rarement retrouvés côte à côte dans les luttes sociales. C'est ça qui est différent, c'est l'ampleur de la mobilisation.
Oui, il y a ça. Et puis, il faut signaler aussi les cadres. Hein. Il y a le syndicat des cadres qui, quand même, sera là, battra le pavé. Je pense que ce n'est pas arrivé depuis des années. Et ça correspond effectivement à ce phénomène de outsider, insider. Vous savez, je suis installée dans mon marché du travail. Au contraire, moi, je galère et je fais du travail payé à la tâche. Et ce sont des problématiques qui n'ont pas été forcément pointées par les politiques, quelles qu'ils soient, droite, gauche, mais aussi la majorité actuelle, et qui créent un profond désarroi aussi dans notre société. Alors, c'est vrai que si on regarde les chiffres du chômage, la croissance, l'investissement, la consommation, tout ça n'est pas mauvais. Mais pour les gens, c'est impalpable, en fait. Et ça correspond aussi à ce courroux, un peu cette colère sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement a beau lâcher...
Qui ne supporte pas si mal.
Mais voilà, c'est ça. On lâche 5 milliards d'euros de baisse d'impôts et ça n'imprime pas dans l'opinion publique.
Voisin, parce qu'on voit son voisin.
On voit son voisin, c'est ça. On compare, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur des mouvements qui sont faussement collectifs. Enfin, de mon point de vue, en tous les cas, c'est une agrégation d'individualité.
Et c'est l'archipélisation de la société,
exactement, ou la jaunisation, comme certains le disent. Moi, je n'aime pas du tout l'expression. Mais vous ne faites pas un mouvement collectif avec une somme d'individus. Entre des avocats qui ronchonnent parce qu'ils vont payer trois fois plus de cotisations qu'à l'heure actuelle, et un cheminot qui va perdre, effectivement, il a été embauché au statut et il estimait qu'il a été cheminot justement pour pouvoir partir en retraite un peu plus tôt que les autres, et un enseignant et un salarié.
Mais il y a zéro point commun,
si ce n'est un fond de source, une grogne, mais qui trouve, comment dirais-je, son terreau dans des considérations complètement différentes.
Et c'est ça qui est singulier, Bernard Vivier, vous qui avez la mémoire du mouvement social.
Oui, tout particulièrement dans les manifestations des temps anciens ou récents. C'était une opposition à un projet ficelé, établi. Là, nous n'avons pas de réforme connue. Donc, nous avons à vivre demain une série de manifestations face à une réforme qui n'est pas présentée. Oui. On avait vécu un petit peu ça en 1995, quand les organisations syndicales s'étaient opposées à une réforme qui n'était pas affichée, à l'exception de celle de la sécurité sociale. Bien. Et nous avons effectivement aujourd'hui, nous n'avons pas du tout une convergence des luttes. Cette expression est une expression qui ne correspond pas à la réalité.
Pourquoi ? On entend des responsables politiques considérer, comme c'est le cas par exemple de la France Insoumise, qui dit que c'est le moment.
Mais le moment de quoi ? D'en découdre avec le président de la République. Et après, qu'est-ce qu'on fera ?
De lui imposer un échec, c'est ce qu'il
dit. Qu'y a-t-il de commun entre les notaires, les avocats d'un côté, les cheminots CGT de l'autre et les pompiers ? Non, il n'y a de convergence de lutte que s'il y a intérêt commun, une destination commune, un dossier, une affaire à défendre. Ce n'est pas le cas.
Ça veut dire que ça donne un avantage au gouvernement dans les jours qui viennent pour essayer de débrancher les uns les autres, céder à des revendications catégorielles.
Le problème de fond est beaucoup plus large que celui des retraites, beaucoup plus large que celui des différentes catégories qui, additionnées, vont manifester demain. Le problème, c'est un problème de fond d'une nation qui a besoin d'évoluer, de s'ouvrir au monde aussi, et de vivre des réformes en gardant ce qui fait notre spécificité française, c'est-à-dire une identité collective attachée aux conservations du moment, aux traditions. Nous sommes un peuple très conservateur. Nous avons une capacité d'adaptation et de recherche, d'ailleurs. Et nous sommes un pays très attractif pour les investisseurs étrangers. Mais nous avons du mal toujours à articuler ce besoin de réforme, et la réforme des retraites, il faut la faire, et ce besoin de conservation.
De conserver notre modèle. Deux sujets que je voudrais aborder assez rapidement avant d'aller au deuxième reportage. La violence, puisqu'on a vu le préfet, l'Allemand, expliquer qu'on mobilisait quasiment la moitié des effectifs de police du pays pour préparer cette journée de mobilisation. Et ensuite, le Rassemblement National et la France Insoumise qui vont défiler côte à côte. Hein, c'est ce que vous expliquez à l'instant sur la convergence des luttes. C'est compliqué avec des écarts aussi colossaux entre l'idéologie des uns et des autres. Sur la violence, on s'attend à la venue de 1000 Black Blocs, c'est maintenant une habitude.
Oui, oui, alors maintenant, depuis longtemps, bien avant les Gilets jaunes d'ailleurs, parce qu'on oublie tous les 1er mai qui ont été complètement, qui se sont terminés dans des violences inouïes. Effectivement, il y a le préfet de police de Paris attend 1000 Black Blocs à Paris, plus tous ceux qui, comme pour les Gilets jaunes se laissent aller à la violence et se laissent happer par... Parce que c'était pas anodin, hein, quand il y a eu les samedis jaunes, de fièvre jaune, eh bien, il y a eu énormément de manifestants qui se sont laissés embarquer dans cette violence, dans des moments d'intensité inouïe.
Que penser de ceux qui nous... C'est assez présent dans le débat public, de ceux qui disent le gouvernement surjoue la peur des violences, etc., pour aussi démobiliser les gens qui vont finalement se dire je vais pas participer à ce mouvement-là parce que ce sera violent. Alors, on entend
lecture, ça. Oui, bien sûr, c'est une lecture facile qui n'est pas une lecture d'aujourd'hui. Toujours, du temps de Pasqua, on disait ça aussi... Je me souviens très bien, on disait « Allez, il laisse faire pour casser le mouvement. Pour... » Moi, je crois pas. Je crois que les gouvernements sont dépassés et les autorités publiques sont dépassées par des mouvements de violence qui sont intenses, très forts, et avec une tactique policière. Je parle pas de stratégie même, je parle de tactique policière qui n'est pas toujours très au point. C'était le cas des Gilets jaunes.
On l'a vu.
On verra ce qui se passe maintenant.
Alors, qu'ils en rajoutent un peu, c'est humain. Oui. Qu'ils aient vraiment peur, c'est certain. Qu'on a vu, on a vu pendant un an genre de choses. Et ce qu'il y a encore une fois par rapport à 95, c'est que pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont vu des images, ça avait quelquefois une ambiance un peu kermesse où il y avait les merguez ou les châtaignes qui brûlaient sur les quais, les gens qui se parlaient. On peut imaginer que l'ambiance sera vraiment franchement différente. Alors ça peut aider effectivement le gouvernement.
Emmanuel Sophie.
Mais l'heure est plus grave, en fait. Enfin, nous, Bernard Thibault, qu'on avait interviewé ce week-end dans le journal, dans le JDD, il le dit très bien, le climat social actuel n'est pas le climat de 95. Et même, on se souvient de cette espèce de solidarité qu'il y avait aussi entre les Franciliens, les Parisiens. On dormait chez les copains, la vieille tante, on partageait la voiture. Bernard Thibault dit même qu'ils ont inventé. Ils avaient inventé le covoiturage. On a découvert le roller. Je ne suis pas sûre, en fait, que ce type d'image-là, on le verrait aujourd'hui.
On parle de politique. On va les retrouver côte à côte, dans les mêmes cortèges. Oui, la France Insoumise avec le Rassemblement National de Marine Le Pen.
La France Insoumise, c'est assez logique. Quand vous parliez tout à l'heure de convergence des luttes, c'est le convergence du rêve de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait à peu près 2 ans qu'il rêve de faire une déverlante sur les champs, d'agréger toutes les luttes, ça marche jamais. Donc là, il va se greffer sur quelque chose en espérant donner l'impression de cette convergence. Lui, il est cohérent. Après, Marine Le Pen, c'est assez hasardeux. Parce que, en fait, voir les gens du Rassemblement National si tenter qu'ils y aillent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas simplement 5 apparatchiks du Rassemblement qui vont se noyer dans les millions de gens. Et il faudra vraiment les chercher pour les voir. Et encore, ils vont faire un stage de quelques minutes et après, ils vont partir parce que leur vision du monde, ce n'est pas d'être à côté des gens de Solidaires, de Sud, de la CGT. Donc, je comprends qu'elle joue là-bas, c'est-à-dire qu'elle est dans le match avec Mélenchon, qu'elle est en train de gagner, qu'elle ne puisse pas se permettre d'être comme son père l'eût été probablement à l'époque face à un mouvement pareil.
C'est-à-dire en distance du mouvement social, mais toujours.
Oui, et puis simplement aussi parce que du côté, avec un fonctionnement beaucoup plus libéral et puis les régimes spéciaux sur le fond, on peut imaginer que dans l'électorat de Marine Le Pen, il y a des gens qui disent. Qui sont dans le privé en disant écoutez, moi, je suis femme de ménage, je me lève à 5 heures, je fais les choses, pourquoi est-ce que je partirais en retraite tard alors que déjà.
Donc c'est sur un fil, la stratégie politique.
Je trouve qu'elle
est
extrêmement redoutable, enfin, pas forcément extrêmement. Elle suit le mouvement, mais sans y aller, tout en y allant, je pense que c'est un peu risqué.
Alors la phrase est devenue culte, elle est signée Nicolas Sarkozy, c'était en 2008. Désormais en France, quand il y a une grève, personne ne s'en aperçoit, raté cette fois-ci dans les transports et la plupart des services publics, eh bien, ce sera la grève très, très suivie avec une forte mobilisation. Alors que dit la loi? La droite peut-elle espérer imposer un droit au service public garanti comme veut le faire Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains? Bref, où est passé le service minimum? Mathieu Lignot, Nicolas Baudry-Dasson.
À Asnières-sur-Seine, branle-bas de combat dans les services de la mairie. Ils se préparent à la grève de demain. 31 des 34 écoles de la ville sont concernées.
Il n'y a pas trop de difficultés. On arrive à faire le compte.
Pour l'instant, ça va. On a mis des points de vigilance sur certaines écoles. Et on verra effectivement les effectifs agents en fonction des effectifs enfants.
Ici, on met en place un service d'accueil minimum pour les élèves en maternelle et primaire. 168 agents volontaires sont mobilisés, des fonctionnaires municipaux, des éducateurs sportifs ou des cadres de la mairie. 77% de taux de grévistes annoncés chez les professeurs de la ville, du jamais vu, alors il faut gérer vite et un peu seul.
Nous avons décidé de mettre en place ce service. Alors évidemment, ça a aussi un coût. Nous bénéficierons d'une compensation financière versée par l'État, mais qui est quand même symbolique, qui ne représente pas du tout l'effort, l'investissement de la commune. C'est vraiment un service que la mairie met en place en prenant sur elle, avec une énorme organisation et finalement très peu de temps pour réagir, puisque comme vous le savez, nous avons à peine 48 heures pour mettre en place cette grosse organisation.
Alors beaucoup de communes n'ont pas les moyens de proposer ce système d'accueil. C'est pourtant une obligation depuis une loi de 2008. Une idée de Nicolas Sarkozy, la création d'un service minimum en cas de grève, une obsession de la droite.
La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Objectif difficilement applicable face aux droits de grève, notamment dans les transports. La loi actuelle oblige les entreprises à informer les usagers.
Aucun train en direction de Porte de Delachaux.
Alors le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau veut aller plus loin. Il propose un nouveau projet de loi pour assurer un vrai service minimum dans les transports publics.
Le droit de grève, certes, c'est un droit, mais ça n'est pas un droit absolu, illimité. Il doit être encadré. Ce que je propose, moi, c'est pas du tout d'interdire la grève, évidemment. C'est pas non plus de l'interdire pour le 5 décembre. Quand on dépose une proposition de loi, c'est pour l'avenir. Mais il faut absolument qu'on mette ce sujet sur la table, parce que les Français sont de plus en plus exaspérés. Et parfois, il y a aussi un détournement du droit de grève.
Dans son viseur, les salariés de la RATP ou les cheminots de la SNCF. Pour ce syndicaliste, ce projet d'obligation de service minimum serait une sorte de réquisition et une atteinte au droit de grève.
Aujourd'hui en France, les seuls métiers où on peut réquisitionner les personnes sont en fait tous des gens qui sont fonctionnaires, comme les gens dans les hôpitaux, les pompiers, les policiers, l'armée. Donc aujourd'hui, on a des injonctions paradoxales des politiciens qui veulent tout et son contraire. Si demain, ils veulent réquisitionner les cheminots, ben à ce moment-là, qu'ils nous mettent fonctionnaires à partir du 1er janvier. Et là, on pourra rediscuter de ces modalités.
Alors, protéger le droit de grève ou garantir la liberté de circuler? Question de constitution. Le droit de grève est constitutionnel. Et Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, a même du mal à y répondre.
Bon, ça, vous me donnez quoi, une heure? Si un jour, il y a une loi qui restreint le droit de grève, et si elle est déférée au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel dira si cette loi porte atteinte au droit constitutionnel ou non.
Le service minimum, encore un débat juridique et une polémique politique. Alors en attendant, le gouvernement songe à faire appel demain au secteur privé pour pallier la grève dans les transports publics. Une soixantaine de ces bus, les cars Macron, pourraient faire des trajets à l'intérieur de Paris.
Alors nous allons revenir sur cette initiative du gouvernement sur les cars Macron, mais c'est vrai, en fait le service minimum ça a marché pendant quelques années après cette phrase de Nicolas Sarkozy, mais en réalité le service minimum n'est pas obligatoire et n'est certainement pas, il n'y a pas un service minimum garanti.
Non. Et quant à la réquisition qui était évoquée, la question de la réquisition ne peut se faire que dans des cas extrêmement précis et limités. Mais vous savez, dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, on pourrait rajouter « service minimum ». Parce que c'est une idée qui germe toujours, plutôt que sur la partie droite de l'échiquier politique, pour donner réponse à des mouvements de grève. Le droit de grève existe dans notre pays depuis 1864. Il a été installé dans la Constitution, et Laurent Fabius l'a rappelé, en 1946. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Depuis 1946, on n'a pas fait de loi pour réglementer le droit de grève. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que la grève, c'est, si vous voulez, un peu comme un volcan. Quand ça part d'un coup, il faut que ça parte. Vous allez dire au volcan,
c'est ce qui va passer
s'il
demain.
Vous plaît, vous allez nous faire un préavis, vous allez venir, vous allez passer par là plutôt que par là. Il faut que ça pète, pardonnez-moi, mais ouais. Je suis un peu familier vulgaire, mais c'est ça. Ça doit sortir. Et notre pays est souvent accoutumé à cela. Ouais. Il y a des métiers, d'ailleurs, dans le passé, dans l'histoire sociale, qui régulièrement faisaient des grèves. Moi, je me souviens avoir été dans le Calvados, dans une entreprise, où tous les ans, il y avait 2 jours de grève.
Et le directeur... Pour faire retomber la pression.
Parce que c'était une sorte de rituel. Oui, faire retomber la pression. C'était pas en l'air, c'était pas ridicule. Voilà, les passions ont besoin de s'exprimer. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que dans ces passions, il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de motif. Elles y sont. Mais vouloir contenir ces passions, non. La vraie réponse, ce n'est pas une loi qui dise aux grévistes « vous ne ferez pas grève », c'est de développer la négociation au maximum. Donc la vraie réponse, et le titre de votre émission nous y invite un peu, la vraie réponse, ce n'est pas service minimum, c'est négociation maximum.
D'accord.
Vous me permettez juste un exemple. La RATP, en 1996, en mai 1996, a installé un accord sur le dialogue social. Remarquable accord. Avant de faire grève, on tire l'alarme et on se réunit. Et Christian Blanc et ensuite Jean-Paul Bailly et une DRH de l'époque qui était remarquable, Josette Théophile, ont fait un travail qui a fait que dans les 10 années qui ont suivi cet accord, il y a eu 2 fois moins de grèves que dans les 10 années qui ont précédé.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis alors du coup ?
Eh bien tout simplement parce qu'on discute, on négocie, on regarde comment régler le conflit par une médiation, par une concertation, avant de passer à l'étape suprême.
Mais qu'est-ce qui s'est passé à la RATP ? Parce que la RATP, ce sera le sujet des prochains jours, parce qu'ils sont en capacité de bloquer toute l'Île-de-France. Il n'y a plus ce dialogue social ?
Alors, c'est une entreprise qui, par rapport à la SNCF, est bien en avance sur le plan social et est bien structurée. Mais la RATP a aussi des préoccupations, a aussi des soucis. Et évidemment... bloquer la RATP, c'est pas comme bloquer l'entreprise Dupont et Frères qui vend des croissants.
Ce qui est difficile sans doute à comprendre. Pardon, je vous coupe, Bernard Vivier, mais ce qui est difficile sans doute à comprendre pour les gens qui nous regardent et qui demain vont galérer et peut-être dans les jours qui viennent, c'est de dire le droit de grève, oui, bien sûr, mais le droit de blocage et le droit de nous empêcher d'aller travailler. Et c'est ça qui est compliqué dans ce débat.
Le sujet, il est là, mais c'est un sujet qui est complètement qu'on peut pas résoudre parce que vous avez dans la Constitution. Bernard a raison, mais néanmoins, dans la Constitution, vous avez la liberté de circuler. Et je dirais que droit de grève et liberté de circuler, c'est exactement comme en période d'attentats terroristes, entre sécurité et liberté. Le problème, c'est qu'on n'a jamais trouvé la réponse. Bernard a raison, la seule réponse qui est valable, puisque vous ne pouvez pas empêcher le droit de grève, c'est la négociation. Il y a des pays qui ont su développer ça. Je vous rappelle que les grandes réformes allemandes de tournant des années 2000, les réformes Hartz IV, ça a duré 3 ans, ces réformes. 3 ans où tous les soirs ou une fois par semaine, les gens allaient défiler sur les rings, c'est-à-dire les périphériques des grandes villes, mais ils continuaient à négocier. Nous, ce n'est pas du tout ce rapport-là, parce qu'on a aussi un mode de syndicat et de revendication salariale qui n'est pas du tout le même, si on exclut la CFDT, qui, il faut le dire, la CFDT cheminot a rejoint le mouvement, mais la CFDT nationale n'est pas associée à la CGT.
Juste si on parle de l'école, je reprenais les chiffres de tout à l'heure, 30% des écoles pourront assurer un service minimal d'accueil. 30% seulement. Là aussi, c'est une légende, l'idée qu'il peut y avoir un accueil organisé en cas de grève des personnels dans l'éducation nationale.
C'est peut-être une légende législative. C'est typiquement la bonne idée de dire on fait un service minimal, mais en même temps, on renvoie la balle aux collectivités. Il faut que les collectivités, elles aient les moyens, elles aient de l'argent.
Pourquoi ? C'est-à-dire, expliquez-nous.
Bah, parce qu'il faut quand même du personnel. Vous n'allez pas laisser les enfants sans personnel derrière. Et en fait, il est là l'écueil de l'idée de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un service minimal, il faut que derrière il y ait donc des gens qui puissent assurer soit les remplacements sur les trains, sur les RER, etc. Et dans les écoles, du personnel qui va surveiller. Et les collectivités n'ont pas la possibilité.
Donc elles ferment les établissements.
On ferme directement parce que vous devez avoir un taux minimum d'encadrants pour pouvoir surveiller les enfants à la cantine, au goûter, à l'étude, etc. Donc ça paraît, c'est typiquement, je trouve, le genre de mesure qui peut être bonne sur le papier, mais dans les fait, elle ne peut pas être mise en œuvre. Alors, il y a juste une avancée quand même de la loi Sarkozy, c'est les prisons de trafic. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut avoir 48 heures dans les transports, également dans l'enseignement. Voilà. Donc, ça peut donner une vision et ça permet aux gens de s'organiser en conséquence.
Il y a une culture de la douleur de la grève. C'est-à-dire que pour que la grève soit efficace, il faut qu'elle fasse mal, pour qu'elle fasse mal pour faire bouger le gouvernement. Et si donc il y a une contradiction absolue avec la notion de service garanti et non pas minimum, ça c'est ce qu'a dit Yves tout à l'heure. Donc on nous fait croire effectivement ce genre de choses. Et puis pour revenir à l'Allemagne, il faut quand même voir qu'effectivement la structure syndicale est totalement différente et la structure politique. Le PC en Allemagne, on ne va pas parler du congrès de Bad Godesberg, c'est-à-dire qu'il y a une tradition social-démocrate de négociation, alors que nous, on a une CGT qui est certes en baisse, mais qui a quand même occupé tout l'espace pendant des dizaines et des dizaines d'années.
Le gouvernement a droit d'essayer une espèce de méthode de système D, c'est-à-dire de sortir les bus Macron. On parle des bateaux-taxis, on parle aussi de limiter, ça, pour le coup, c'est dans leur corde, hein, de limiter l'expansion des tarifs pour les VTC. Ils peuvent d'ores et déjà se dire demain, on va mettre des bus privé pour assurer un transport public.
Alors, réponse oui, puis pas forcément le gouvernement, les collectivités, les entreprises privées qui peuvent offrir des solutions autres, alternatives à ces transports. Attention, la SNCF et la RATP peuvent être un petit peu abîmées, parce que si on trouve que d'autres modes de transport que la SNCF sont utiles, pratiques et moins chers, on peut y prendre goût.
Ce qu'il faut ajouter, et ça rejoint votre question, c'est que à la SNCF, à la RATP et dans d'autres services publics de transport, c'est les deux principaux, ce qu'on redoute, ce n'est pas uniquement les retraites, hein, c'est aussi l'ouverture à la concurrence. Mmh. Il ne faut pas oublier que la SNCF a fait l'objet d'une réforme l'année dernière qui est passée un peu comme une lettre à la poste quand même, mais qu'ils redoutent par-dessus tout de perdre des droits acquis, à la faveur d'une réforme qui ouvre, eh bien, je dirais, le réseau à la concurrence. Et ça,
c'est aussi ça qui
joue. Ils ont très, très peur de ça.
Cette question, si je veux aller travailler, mais que je n'ai aucune solution pour aller au bureau, qu'est-ce que je risque ?
Vaut mieux prévenir. Hein.
Ah bon ?
C'est pas parce qu'il y a la grève, c'est pas un permis d'absence. Donc il faut le dire à son employeur, à son chef, à son manager. Dire, bah, écoutez, j'ai un souci, j'ai pas de train, j'ai pas de RER.
Là aussi, il faut prévenir les bouchons.
Non, c'est pas impossible. À l'avance, mais au moment, bah, vous pouvez pas, effectivement. Mais en tous les cas, c'est pas parce qu'il y a grève que vous êtes autorisé à vous absenter de votre poste de travail. Donc un petit mail, un texto, signifier son absence parce que pas de maistro ou alors pas.
Et ça, ça peut durer le temps de la grève Bernard Vivier.
Alors, ça vient d'être dit, effectivement, un salarié qui ne peut pas se rendre à son travail le signale à son employeur. Et puis son
ça dure 15 jours, il le signale pendant 15 jours à son employeur?
Non, parce qu'à ce moment-là, il y a une obligation du salarié un peu de s'adapter. L'employeur va dire, attendez, moi j'ai besoin de faire travailler l'entreprise, de faire fonctionner l'entreprise. Prenez vos dispositions pour vous rapprocher. C'est extrêmement difficile, c'est du cas par cas. Mais un salarié doit se rendre à son travail. Pour autant, demain, un salarié qui ne peut pas se rendre à son travail ne va pas être considéré comme gréviste. Un employeur ne peut pas lui dire « vous allez prendre un jour de congé ». Donc, il ne peut pas lui imposer. Par contre, on peut récupérer, on peut différer. C'est une situation qui se règle pas par les textes, enfin il y a des textes,
par la débrouille.
Mais par la débrouille. Voilà.
Juste un mot sur Bruno Retailleau qui défend une proposition de loi créant le droit au transport public garanti, on en a dit un mot, en réquisitionnaire du personnel. C'est impossible.
C'est impossible, il n'y a qu'une.
Pourquoi
y a qu'une... Mais parce que, y a
parce
pas...
que lui il dit que ça passe.
Non, il faut qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Il faut qu'il y ait un trouble à l'ordre public, ou il faut qu'il y ait vie ou mort en jeu, si vous voulez. Voilà. Ça existe dans les hôpitaux. Vous avez un droit d'assignation, c'est pas la réquisition. C'est un droit d'assignation en vertu d'une loi de 1950 où vous pouvez, dans les hôpitaux, demander à certains personnels d'être là et le directeur de l'hôpital ou le président de l'hôpital a même l'obligation prévoir des chambres pour loger le personnel, y compris peut-être de louer des chambres d'hôtel, parce que là, vous avez des patients les plus urgents qui doivent être pris en charge. Donc ça, c'est une disposition qui est propre aux hôpitaux. Mais ce n'est pas du tout le cas dans les transports publics. Il y a un trouble, certes, mais ce n'est pas un trouble à l'ordre public.
Ça a été fait par le général de Gaulle au moment de la grève des mineurs.
Oui, alors après...
Donc, c'est des circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire parce
qu'on peut faire appel à l'armée avec... aussi.
Non, mais je ne suis pas en train de prôner ce genre de choses. Je dis simplement que c'est des cas d'extrême urgence quand il y a un risque pour le pays.
Qu'est-ce qui s'était passé, Nathalie Saint-Cricq, pendant la grève des mineurs ?
Il y avait une grève des mineurs, il y a eu des réquisitions. De Gaulle s'en était sorti aimablement après, en disant que ce n'est pas une réquisition, c'est une réquisition du charbon, et pas des... Et simplement parce qu'il y avait un risque de problème d'approvisionnement. Donc on peut imaginer que dans certains cas, c'est-à-dire que quand les sources d'énergie... Mais c'est vraiment, en général en France, quelque chose qui est dans l'extrême, extrême urgence. Et puis on peut rajouter que si c'était fait là maintenant, parce que la proposition de Bruno Retailleau, elle est maintenant, si les choses étaient faites en panique n'importe comment, ça serait une raison de plus d'aggraver le mouvement. Donc si c'était aussi simple, ça se saurait.
Juste un mot. Et en 1963, le général de Gaulle a dû caler, parce que les mineurs CGT, CFTC, avec Joseph Sauty, un grand mineur CFTC, a dit, attendez, vous y viendrez nous chercher et nous conduire au fond de la mine avec vos gendarmes et votre armée. On n'y va pas. Il a dû caler. La réquisition, afficher un désir de réquisitionner, c'est faire un coup de menton. Ça ne sert à rien, d'accord, ça ne marchera jamais.
Alors eux, c'est sûr, seront dans la rue demain, pas uniquement pour contester la réforme des retraites, mais pour défendre la survie de leur garde, des services minimums et d'un modèle de société. Derrière les cheminots, c'est une bonne partie des habitants d'Acier, dans le Lot, qui vont se joindre au mouvement. Émilien David et Emmanuel Bach.
C'est toujours dans un bruit sourd que les trains entrent en gare de Figeac. Ici, les machines roulent au diesel, signe distinctif de ce que l'on appelle les petites lignes. Celles-ci serpentent à travers le Lot, entre Brive-la-Gaillarde et Rodez. Dans ce train, Jacques Montal est comme chez lui. Ce cheminot à la retraite est entré au chemin de fer en 1977. Il est resté toute sa carrière dans la région.
Salut Walter, ça va bien?
Ouais, ouais.
Tu montes, tu as pris le train aujourd'hui pour monter sur Paris peut-être?
Non, non, bien plus loin. Heureusement qu'il y a du train en fait, je monte au Havre.
Ah, d'accord. Ouais, voilà.
Des trains, il y en a justement de moins en moins. Baisse du trafic, suppression de certains arrêts. Depuis des années, ces petites lignes sont menacées.
Il y a beaucoup de lignes avec des ralentissements ou pour manque d'entretien. Et si demain les travaux nécessaires à leur rénovation ne sont pas effectués, c'est, ben, ça va être la fermeture pure et simple.
Sur la ligne, la gare d'Acier, village de 700 habitants. C'est ici que Jacques Montal a passé la moitié de sa carrière comme chef de gare.
J'étais au premier étage, j'habitais le logement, j'avais juste le bureau en bas, j'avais juste à descendre l'escalier pour être au travail, quoi. Il y avait quelques habitués comme ça qui n'hésitaient pas à m'interpeller pour un horaire, pour un train en retard ou pour un problème sur la ligne. Et moi, je répondais toujours présent, évidemment, je pouvais pas ne pas répondre.
Aujourd'hui, le guichet n'est plus ouvert que le matin, du lundi au vendredi.
Il y en avait deux.
Tout ça. Oui, il y avait deux guichets. Hein.
Le service s'effrite peu à peu dans cette gare menacée de fermeture depuis 30 ans, mais pour laquelle ce cheminot s'est battu toute sa carrière, soutenu par la population. Occupation de la gare, blocage des trains, les actions se sont succédées, comme ici en 2001, pour protester contre la réduction des horaires d'ouverture.
Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux.
Aujourd'hui encore, les habitants se mobilisent pour préserver ce service. Informés de la présence de notre équipe de tournage, une vingtaine de personnes s'est spontanément rassemblée pour alerter sur la nécessité de la gare et plus encore.
Ça commence par supprimer une gare, et puis après la poste, et puis après l'école, et puis après on n'a plus de service public, on n'a plus rien. Enfin voilà, c'est comme ça que ça démarre. Hein.
S'il n'y a plus ça, c'est sûr, tout le monde, la seule solution c'est d'aller vivre en ville, parce qu'on ne pourra plus, s'il n'y a plus de service public, oui, plus travailler, plus se déplacer.
Alors le mouvement du 5 décembre apparaît comme une opportunité pour porter plusieurs revendications. Dans le café du village, anciens cheminots, ouvriers ou professeurs, tous veulent dénoncer des problèmes qui dépassent celui des retraites.
Et les motifs de mécontentement, de lutte contre les inégalités, contre la pressurisation de tous les gens qui bossent ou qui sont sans emploi, bon, y en a marre, quoi.
Et ce qu'on espère le 5, c'est la convergence en fait, de tous les mouvements, de ceux qui se rendent compte que finalement on les a bernés, que ça fait des décennies d'ailleurs, que tous les gouvernements confondus, celui-ci a en accéléré, est en train de nous mettre dans une situation absolument impossible et de révolte.
Tous seront dans la rue demain. La majorité a choisi de défiler à Figeac, sous-préfecture du Lot, à 10 minutes en train.
Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit bien qu'ils vont manifester contre la réforme des retraites, mais aussi pour défendre les services publics, mais aussi parce qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés. D'ailleurs, cette question, est-ce que Macron paie aussi sa fracture avec les territoires?
Ah, évidemment, la fracture des territoires qui n'est pas due à Macron, qui existe depuis très longtemps, enfin qui s'est creusée au fur et à mesure que de la mondialisation, du changement d'époque. Mmh. Eh bien, le reportage qu'on vient de voir, c'est d'une certaine façon une illustration de ce qu'étaient les Gilets jaunes tout au début, en disant, mais nous, on est abandonnés des services publics, on est abandonnés de l'État, on veut plus d'État, alors que la mondialisation, d'une certaine façon, c'est moins d'État, c'est plus d'autorégulation avec des opérateurs privés. Et nous, on existe et on veut des services publics, on est abandonnés, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de train. Mais c'est dû aussi, d'une certaine façon, à notre changement d'époque. On ne peut pas considérer qu'on vive comme dans les années 1960.
Mais eux, ils se battent contre la fermeture de leur gare.
Il y a peut-être un moyen terme entre basculer tout de suite dans un système où on n'a même plus un humain à qui on peut parler quand on a besoin d'acheter un billet de train, parce qu'il y a déjà des gens, on est un pays de gens un peu âgés. Donc on peut comprendre aussi que ces gens-là soient paniqués devant le fait. Vous savez, il y a un assureur actuellement qui met en avant pour qu'on aille sur son assureur qu'on ne sait pas taper deux, taper un, oui, taper trois, ça. Qu'on peut parler à quelqu'un. Oui. Donc quand c'est vrai que... Alors on va peut-être mettre, ils vont essayer manifestement de faire des accords dans les bureaux de tabac, de manière à ce qu'on puisse acheter son billet de train dans les bureaux de tabac, mais qu'il n'y ait pas cette espèce de panique sur on est entre nous, l'école, on n'a plus rien et on ne peut plus parler à personne. Et puis c'était du lien social. C'est-à-dire que si vous allez vous demander, vous parlez deux minutes. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'il y a des gens qui ne parle à personne pendant 15 jours, on peut acheter quelqu'un à la poste qui va voir votre grand-père ou votre grand-mère.
Mais ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit que c'est ça aussi qui va sortir.
Bien sûr.
Mais bien sûr.
C'est pas simplement de négocier sur les alinéas d'une réforme qu'on ne connaît pas encore. C'est aussi
et
ça.
Absolument. Et là-dessus, il y avait un soutien. Quand à un moment donné, il y a eu un certain nombre de mouvements de grève des cheminots disant c'est aussi le manque de personnel, c'est-à-dire la déshumanisation. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire écho parce que chacun l'a vécu.
Oui, le chemin de fer, c'est un élément de notre patrimoine. Et quand je dis patrimoine, ce n'est pas du passé, c'est notre patrimoine actuel. Alors, bien évidemment, c'est le patrimoine du passé. À la Libération, il y avait à peu près 500 000 cheminots. Aujourd'hui, il y en a 150 000 actifs et 270 000 retraités. Donc, il y a beaucoup moins. Mais c'était aussi tout ce maillage du territoire. Et ce patrimoine actuel, il est là. C'est la question centrale de l'aménagement du territoire. Vous avez montré la gare d'Acier.
Oui.
Moi, je suis né à Millau dans l'Aveyron. Quand j'étais jeune, on mettait 12 heures Paris-Millau. Clermont-Ferrand, Neussargues, Arvins, Millau, Tournemire-Roquefort, Béziers. Voilà. Et on s'arrêtait. On prenait le café à 6 h du matin en gare d'Arvins. En disant ça, on s'y retrouve. Il y a beaucoup d'émotions dans tout ce que l'on vit. Bon, et ces personnes de la gare d'Acier expriment ce cœur-là. On a besoin de ne pas se sentir déconnecté.
Mais ils ne se battent pas pour la défense des régimes spéciaux, eux.
Non.
Ah non.
Ils se cristallisent sur le 5 décembre. La SNCF, c'est une très belle entreprise. Aujourd'hui, un tiers de son chiffre d'affaires est fait à l'international. On vient d'apprendre que l'an prochain, des trains TGV rouleront en Espagne. C'est bon, c'est formidable. Attention, ça a été le grand succès de Guillaume Pepy. Attention, son successeur Jean-Pierre Farandou, qui a commencé en Aveyron, à Rodez, comme chef de gare.
Toujours un hommage aux Aveyronnais, toujours.
Jean-Pierre Farandou, il va falloir qu'il rééquilibre aussi, parce que la SNCF, c'est un outil de l'aménagement du territoire.
Oui, parce qu'on a un peu oublié les petites lignes. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait du tout TGV, ça, tout le monde est responsable de ça.
En tout cas, ce que démontre ce reportage, c'est que on parlait tout à l'heure d'agrégation des colères, peut-être pas toutes les colères, peut-être qu'il y a une forme d'individualisme dans la façon dont chacun va conduire sa bataille pour son statut. Mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a d'autres choses qui risquent aussi de s'agréger.
En fait, Emmanuel Macron, il en avait parlé pendant sa campagne. Au jour d'aujourd'hui, il a peut-être moins appliqué tout ce qu'il avait dit pendant sa campagne. En tous les cas, le constat, Jacques Chirac avait parlé de la fracture sociale qui a disparu avec le plan Juppé, la Sécu, etc. La fracture territoriale, elle a explosé à la figure du président.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Justement, Jean-Pierre, dans l'Eure-et-Loire, pourquoi n'y a-t-il pas de service minimum? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis en place réellement?
Je pense que le problème, c'est pas tellement les moyens. C'est parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de faire grève. Et ce que je disais tout à l'heure, dans la Constitution, on a le droit de circuler. Et je pense que tous les Français demain, enfin une grande partie d'entre eux, vont dire mais vont être excédés par ce qui va se passer, parce qu'ils veulent aller à leur travail, ils veulent aller faire leurs courses, aller voir leurs parents. Mais on n'arrive pas à concilier les deux. C'est vraiment...
D'autres ont réussi à le faire ?
Personne.
Personne, d'accord.
Ça n'existe pas. Mais, et encore, nous, on n'a pas de briseurs de grève. Si on a parlé du général de Gaulle en 63.
Mais ça n'a pas marché.
Je vous rappellerai Margaret Thatcher, qui a les railways anglais, britanniques. Ben, elle les a malmenés pour les privatiser, d'ailleurs. Il y a Ronald Reagan, avec les contrôleurs aériens aux États-Unis aussi, où il avait été un briseur de grève important.
Le droit de grève est inscrit dans notre Constitution, mais où est-il stipulé qu'on a le droit de bloquer des millions de Français ?
C'est un peu la même question précédemment, mais exprimée différemment. Et là aussi, le droit d'aller et de venir, de circuler, c'est un droit fondamental. Nous n'avons pas le droit d'être séquestrés, nous n'avons pas le droit d'être retenus, nous n'avons pas le droit d'être empêchés d'aller et de venir. Mais nous avons le droit aussi de manifester notre colère, de faire grève. Bon, et ça vient d'être dit par... on a besoin de
concilier. Il y en a certains, lorsqu'ils se mettent en grève, ça se voit quand même plus que d'autres. lorsque la RATP et la SNCF se mettent en grève, c'est un levier d'expression qui est extrêmement puissant.
Et donc la réponse se fait dans la concertation entre direction et syndicats.
Pas toujours.
Dans certains pays, ça marche très très bien. Vous allez en Allemagne. En Allemagne, une négociation a lieu, augmentation de salaire de 4%, c'est pas rare. Et dans la durée du contrat signé, obligation pour les syndicats de ne pas faire grève. Chacun prend ses responsabilités.
Nathalie Saint-Cricq.
Oui, alors, je suis d'accord avec vous, mais on peut comprendre aussi s'il y a autant de questions des téléspectateurs sur ce sujet qu'il y a une incompréhension totale et que peut-être on soit obligé de bouger, d'évoluer. C'est-à-dire qu'un cas similaire dans 5 ans ou dans 10 ans, si l'opinion est prête et si les gens ne sont pas contradictoires, qu'il y ait une organisation dans chaque entreprise de manière à ce qu'il y ait quand même un service qui soit entre garantie et minimum, mais que les choses bougent un peu. Parce que c'est très difficile. On va voir comment ça se passe. On va voir si ça tient 3 jours, 4 jours, ou si les gens se battent après. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre que les usagers et la période des fêtes étant le bouquet. Quoi. Enfin, le bouquet prévu, comme vous l'aviez dit, attendu, mais quand même le bouquet.
À 78 ans, j'irai manifester demain pour les droits de mes petits-enfants. Là, pour le coup, c'est la réforme des retraites.
Oui, cela dit, on comprend mieux la personne de 78 ans qui va manifester que les étudiants ou les lycéens de 18 ans qui vont manifester pour leur retraite ou à un âge où, généralement, on a l'esprit un peu plus léger et on n'est pas déjà dans ces systèmes-là.
C'est eux qui sont concernés, non ?
Oui, bien sûr.
Ceux qui sont jeunes et qui se disent on n'aura peut-être pas la même retraite que nos parents.
Oui, mais je trouve que c'est assez, justement, la solidarité intergénérationnelle pour quelqu'un qui est plus âgé, qui, elle est sûre d'avoir sa retraite jusqu'à la fin de sa vie, c'est plutôt assez beau dans ce sens-là.
Pourquoi les bénéficiaires des régimes spéciaux refusent-ils d'admettre qu'ils sont très privilégiés sur le plan des pensions ?
Alors, mais quand on a un acquis, vous voyez, on se rend toujours compte de l'acquis du voisin, mais pas du sien. Enfin, c'est quand même très humain. Alors, effectivement, ils savent très bien. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui se sont dites sur les pensions à la RATP, 3700 euros. C'est pas vrai, c'est faux. C'est plutôt 2400 euros bruts. Voilà. Après, il y a des avantages qui ont été cédés à une période où les Michelines ne sont plus les TGV actuels. C'est forcément humain de ne pas vouloir et de camper sur ce qu'on a. Enfin,
avec la nation, avait dit Emmanuel Macron.
Oui, il l'a dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut imaginer des espèces de portes de sortie en fonction de la date d'entrée dans l'entreprise, que ce soit la RATP ou que ce soit la SNCF. Mais voilà, c'est une forme de contrat social. J'ai signé avec un salaire moins élevé et j'ai ça en retour.
C'est une très mauvaise formule, le pacte avec la nation d'ailleurs, parce que vous avez un pacte avec la nation, j'ai un pacte avec la nation, on a tous un pacte avec la nation sur nos retraites. Il n'y a pas que les régimes spéciaux qui ont un pacte avec la nation.
On peut simplement dire que le pacte, et ça c'est la clause du grand-père, c'est ça, c'est que quand on rentre dans une entreprise avec un salaire, avec un salaire peut-être plus faible qu'ailleurs, et avec des règles du jeu, je pense que ce qui est insupportable pour les gens, c'est que les règles du jeu soient remises en question et qu'on ne vous le dise pas au début. Quand vous rentrez, si vous rentrez demain à la SNCF, qu'on vous dise ça sera comme ça, on peut l'accepter. Mais l'idée que tout peut toujours bouger, que les pensions de réversion, c'était ça, mais que ça pourrait devenir autre chose, que les femmes qui ont eu 3 enfants, ça pourrait être ça, mais que ça pourrait être encore autre chose, je pense que c'est ça qui crée la pagaille, comme on dit.
Pourquoi la CFDT ne manifeste-t-elle pas ? Sera-t-elle suivie par ses adhérents ?
Non.
Enfin, non,
je ne sais pas, Bernard, mais en tous les cas, ils savent très bien que des militants, alors par contre, il y a une consigne, c'est ne pas apparaître avec un logo CFDT, donc le faire plutôt discretos, mais ils savent très bien que sur le terrain, il y aura des militants qui pourront avoir envie, à titre individuel et donc pas avec le nom de l'organisation, de manifester leurs inquiétudes, leurs questionnements sur cette réforme. Et ce qui s'est passé avec les cheminots, donc la question, elle est très intéressante. On voit bien que Laurent Berger, qui s'exprime énormément depuis des mois et des mois, qui tire aussi des sonnettes d'alarme souvent assez intéressantes, lui, il est en position d'équilibriste très délicate et il se réserve quand même le droit de manifester en janvier si nous avons des mesures d'âge avant 2025.
Mais la CFDT cheminot, elle sera bel et bien mobilisée demain.
Oui, on le voit à la CFDT, on le voit à la CFTC, on le voit à l'UNSA aussi, qui sont 3 organisations qui globalement comprennent la nécessité d'une réforme mais veulent en aménager les contours et puis privilégier la réforme du système par rapport à un équilibre budgétaire. Et la CFDT, dans son histoire, Nicole Notat en 1995, François Chérec en 2003, ont vécu très difficilement en interne. La CFDT a perdu des adhérents en masse après 2003 et elle n'a pas retrouvé...
Sur la réforme des retraites, sur la réforme des retraites.
Elle n'a pas retrouvé le nombre d'adhérents qu'elle avait à l'époque. Mais elle a tenu le cap.
Et elle a préparé ses esprits depuis 10 ans. Depuis 10 ans, voilà. Elle dit, on fera une réforme d'impôts.
Le premier syndicat français aujourd'hui, il faut le dire.
Le mouvement ne risque-t-il pas d'échapper au contrôle des syndicats? Vous nous en parliez tout à l'heure. C'est l'incertitude, hein, de l'inconnu de ce mouvement.
Oui, il y a une incertitude. Alors, c'est une préoccupation qu'on peut avoir demain, les 1000 Black Blocs dont parle Yves Tréhard, mais la préoccupation, elle est dans la durée, c'est-à-dire une désaffection grandissante des jeunes générations pour ces formes d'action collective qui sont très hiérarchisées, très structurées et qui donnent un peu parfois le sentiment que c'est un peu comme les partis politiques. Il y a ceux d'en haut et puis nous qui galérons en bas.
Et on l'avait vu au moment de la crise des Gilets jaunes, ils n'étaient pas du tout les bienvenus, hein, les syndicats, au tout début du mouvement. Ils ont eu bien du mal, d'ailleurs, à accompagner cette révolte sociale. Des explosions de violence sont-elles inéluctables demain?
Oui, enfin, non, inéluctables, on ne peut pas le dire, on verra, ce n'est pas, c'est pas écrit. Il faut aussi souligner que les forces de l'ordre, depuis le mouvement des Gilets jaunes, justement, ont affiné leur tactique. On a vu que le 1er mai dernier, où il y avait beaucoup de gilets jaunes, on avait cru que ça serait une explosion de violence. Et la police a usé de tactiques qui étaient assez intelligentes et il n'y a pas eu de violence comme on le redoutait.
Et si ce mouvement visait Macron pour sanctionner son arrogance en début de quinquennat? Vous en parliez tout à l'heure, Nathalie Saint-Cricq.
C'est très difficile de savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, on peut se demander, on peut se dire que sous François, qu'à la fin de Nicolas Sarkozy exaspérait un peu les gens, que François Hollande suscitait une forme de mépris, même si c'est désagréable à dire, parce que les gens ne le trouvaient pas. Est-ce qu'il y a, dans la relation personnelle, cette espèce d'engouement qu'il y a eu pour Emmanuel Macron, je ne dis pas de tous les Français, loin de là, mais même cette espèce de phénomène un peu délirant qu'il y avait dans les meetings, qu'ils l'ont autant adoré et que autant détesté aujourd'hui, il n'est pas exclu qu'il y ait de l'irrationnel dans la relation d'Emmanuel Macron, même s'il fait des efforts, et que toujours, quelquefois, les présidents traînent trois maudites phrases, quatre maudites phrases, deux maudites mesures, et que ça pourrit la fin du quinquennat.
C'est une réforme de début de quinquennat. Ce qui est sûr, c'est que la deuxième partie des quinquennats des présidents est toujours...
Allez, une autre question. Comme avec la taxe carbone, le gouvernement ne paie-t-il pas un manque de pédagogie sur la réforme des retraites?
C'est du pataugeage, même plus que d'un manque de pédagogie. C'est pour ça qu'ils sont dans les opérations des ménages aujourd'hui.
Des fautes de méthode.
Doit-on s'attendre à un 95 bis en termes de mobilisation, de durée et de blocage du pays?
Pas forcément.
Non. Pas forcément.
Mais joker, hein.
Alors bon, on restera là-dessus. En tout cas, ça commence maintenant, dans moins d'une heure, ce mouvement de grève. Je rappelle que vous pouvez retrouver demain en direct à 20h30 une émission spéciale qui concernera ce mouvement de grève du 5 décembre, présentée par Léa Salamé et Thomas Soto, avec des membres du gouvernement face aux Français. Demain, on se retrouve 17h50, même heure. À demain.